c'est pas leurs affaires.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 4 mars 2022. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Nathalie Barge.
Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, l'universitaire Albert Ouédraogo, 53 ans, est le nouveau Premier ministre.
Au Mali, des groupes armés, ex-rebelles signataires de l'accord de paix d'Alger, haussent le ton contre la junte au pouvoir.
Au Tchad, le pré-dialogue entre la junte au pouvoir et les rebelles a été fixé au 13 mars à Doha.
En Libye, un gouvernement parallèle a prêté serment hier, alors que la crise politique s'aggrave dans le pays.
Dakar proteste auprès de l'ambassade ukrainienne, l'appelant à cesser de recruter au Sénégal des combattants contre les Russes.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a nommé hier au poste de Premier ministre l'universitaire Albert Ouédraogo de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Albert Ouédraogo, 53 ans, économiste, spécialiste en développement des entreprises et en management, a été nommé Premier ministre jeudi, au lendemain de l'investiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Selon sa biographie, le docteur Albert Ouédraogo est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion. Il dispose d'une expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées. Selon la présidence du FASO, il a conduit plusieurs missions d'études sur le développement du secteur privé, sur la faisabilité économique et financière de création d'entreprises et d'organisations, sur l'élaboration de plans stratégiques, de même que des missions d'audit organisationnel et d'élaboration de manuels de procédure. Le nouveau Premier ministre a enseigné pendant plusieurs années dans les universités publiques et privées du Burkina Faso. Selon la présidence dans son communiqué, il est marié et père de 2 enfants. Le Premier ministre est un civil. Il devra, selon la charte de la transition, former un gouvernement d'au moins 25 membres dans les jours à venir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, des groupes armés signataires de l'accord de paix haussent le ton contre la junte qui est pressée sur un ton presque menaçant de clarifier ses positions. Le point avec Rosine Mounezero.
Dans un communiqué publié hier, la coordination des mouvements de l'Azawad dénonce la mauvaise foi des autorités et la posture publique belliqueuse de certains membres du pouvoir. La CMA souligne que l'accord de paix dit d'Alger signé en 2015 est le seul lien entre le gouvernement et les mouvements de l'Azawad. Cet accord prévoit l'intégration des anciens rebelles dans les forces de défense maliennes et une plus grande autonomie des régions. La CMA regrette l'absence totale de progrès dans la mise en œuvre de l'accord sous les autorités actuelles. Les anciens rebelles s'interrogent sur les intentions d'autorité dont la charte fixée par la mise en œuvre intelligente de l'accord d'Alger. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a même demandé par le passé que soient rediscutées certaines dispositions de l'accord d'Alger. Pour sa part, la CMA dénonce des prises de position qui sont de nature à entretenir la confusion et invite le gouvernement malien à vite clarifier sa position définitive.
Les négociations entre la junte au Tchad et plusieurs groupes rebelles qui devaient s'ouvrir le 27 février à Doha au Qatar sont reportées au 13 mars selon un communiqué publié hier par le comité organisateur. Ce pré-dialogue est un préalable des autorités pour l'organisation du dialogue national inclusif du 10 mai.
En Libye, Fatih Bachaga a prêté serment hier en tant que Premier ministre, une nomination contestée par son prédécesseur et qui risque d'aggraver la crise politique. Le nouveau gouvernement accuse l'équipe d'Abdelhamid Dbeiba d'avoir enlevé 2 de ses membres, Jean-Roger Bion.
Ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli, Fatih Bachaga a été désigné Premier ministre le mois dernier par le Parlement de Tobrouk. Après l'approbation de son équipe mardi, il a prêté serment hier devant ce même Parlement de l'Est de la Libye, contrôlé par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Abdelhamid Dbeiba, chef du gouvernement d'Union nationale formé l'an dernier sous l'égide de l'ONU, refuse de céder le pouvoir avant la tenue d'élections. Les services de Fatih Bachaga ont déclaré hier matin que ses ministres des Affaires étrangères et de la Culture ont été enlevés par une milice liée au gouvernement de Tripoli alors qu'ils tentaient de gagner Tobrouk par voie terrestre. L'attitude des grandes puissances sera déterminante dans ce bras de fer entre deux exécutifs pour le contrôle de la Libye, ce qui fait ressurgir le spectre de la partition du pays après un an et demi de relative accalmie dans les combats.
Au Mozambique, le président Philippe Nyusi a procédé à un remaniement de son gouvernement et a changé son premier ministre hier. Ce remaniement coïncide avec un procès pour corruption dans le gros scandale de la dette cachée. Le point avec Nani Talani.
Selon la présidence, Adriano Maleane a été nommé premier ministre. Il était ministre des Finances depuis 2015. Cet économiste de formation a été auparavant gouverneur de la Banque centrale entre 1991 et 2006. Il vient remplacer Carlos Agostinho do Rosario qui occupait le poste depuis le début de la présidence de Nyusi en 2015. Do Rosario a été limogé hier avec 6 autres ministres dont ceux des Finances, des Ressources minérales, de l'Industrie et des Travaux publics. Ce changement d'équipe intervient pendant le procès en cours de 19 hauts fonctionnaires, dont le fils de l'ancien président Armando Ndambi Guebuza, impliqué dans un scandale de corruption de 2 milliards de dollars. Dans son témoignage le mois dernier, M. Guebuza a accusé nommément le président Nyusi, qui était alors ministre de la Défense, d'avoir contracté une dette de 2 milliards de dollars sans aviser le Parlement pour acheter des navires de pêche qui n'ont jamais servi. Philippe Nyusi ne sera pas entendu, mais continue de nier toute implication. Le Frelimo, le parti au pouvoir, tient en septembre sa conférence nationale, 2 ans avant les élections générales au Mozambique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères a rappelé à l'ordre l'ambassade d'Ukraine qui procédait à l'enrôlement de volontaires sénégalais prêts à combattre aux côtés des Ukrainiens. Les autorités sénégalaises ont fermement protesté contre de telles pratiques. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
En quelques heures, 36 Sénégalais ont favorablement répondu à l'appel lancé par les autorités ukrainiennes, accréditées à Dakar. Ces dernières ont utilisé les plateformes digitales, en l'occurrence Facebook, pour demander aux citoyens sénégalais et étrangers de venir combattre en Ukraine avec à l'appui un formulaire d'inscription. Des faits jugés graves par le ministère sénégalais des Affaires étrangères qui a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal pour vérification et authentification de la publication. L'ambassadeur a confirmé les faits aux autorités sénégalaises qui lui ont officiellement notifié une note verbale de protestation condamnant fermement ces pratiques qu'elle juge graves car constituant une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Au-delà de cette contestation, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade d'Ukraine au Sénégal de retirer immédiatement l'appel et d'arrêter sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais. Les autorités sénégalaises se réservent également le droit de prendre toute décision qu'appelle cette pratique qu'elles jugent illégale et passible des peines prévues par la loi sénégalaise. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
En Ukraine, la centrale atomique de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre du pays, a été touchée aujourd'hui par des frappes de l'armée russe qui ont provoqué un incendie, mais sa sécurité est garantie selon Kiev. Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU dans les prochaines heures. Les actions irresponsables du président Poutine, a-t-il dit dans un communiqué, peuvent maintenant menacer directement la sécurité de toute l'Europe. Et il l'a dit après s'être entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec M. Zelensky. La Minute Éco, Rosine Mounézéro.
Le gouvernement malien a annulé l'attribution de plus de 2000 logements sociaux dont certains bénéficiaires seraient des personnes proches des autorités. Le gouvernement invoque quelques anomalies dont il a eu connaissance à travers les médias. La lutte contre la corruption est l'une des nécessités vitales pour le Mali, a déclaré le chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga. Le blé meunier et le maïs ont connu une nouvelle flambée des cours jeudi sur le marché européen, clôturant respectivement à 381,75 euros et 379 euros la tonne sur les échéances de mars, au moment où la guerre en Ukraine se poursuit, provoquant l'inquiétude sur l'offre en grains. La situation s'annonce donc critique pour les pays ultra dépendants des importations pour nourrir leur population, comme l'Égypte. La Banque africaine de développement a organisé du 21 au 24 février dernier au Cameroun un atelier de formation en profit d'une cinquantaine d'acteurs sur la finance climatique, rapporte l'agence Ecofin. L'atelier avait pour objectif de renforcer les capacités en finance climatique des acteurs issus des institutions nationales du secteur public et privé, ainsi que des organisations de la société civile. Il a également permis une consultation des acteurs sur un projet relatif à l'agriculture résiliente au champ changement climatique.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite de notre série sur la présentation des équipes qui prennent part à la Basketball Africa League saison 2, focus aujourd'hui sur la formation mozambicaine de Ferroviário da Beira. Allons à la découverte de cette équipe du Mozambique dans ce reportage d'Alfredo Junior relaté ici par Thierry Kaouré.
Le club Ferroviário da Beira a participé à la Ligue mozambicaine de basketball, une compétition qu'il a déjà remportée à trois reprises dans les années 2012, 2013 et 2014, et il était vice-champion en 2009 et 2016. Ses succès ont été rendus possibles par le fort investissement de la direction dans son équipe senior masculine. Pour se qualifier pour la Basketball Africa League, les locomotives de Chivève ont engagé l'entraîneur espagnol Luis López Hernández, qui a placé Ferroviário da Beira au sommet du basket mozambicain. C'est avec lui que le club est devenu champion national en 2013 et 2014. Et en décembre 2021, Hernández, qui a débuté sa carrière d'entraîneur il y a 30 ans dans son pays natal des îles Canaries, en Espagne, a conduit les locomotives à la qualification à la Basketball Africa League. Il est confiant pour cette nouvelle aventure.
Nous connaissons les équipes qui sont dans notre groupe. Nous les étudions. Mais ce qui est important, c'est le match. On a hâte de jouer le premier match.
Pour assurer une présence digne dans la phase finale de la Basketball Africa League, Ferroviário da Beira a renforcé son effectif avec des joueurs étrangers, dont deux étaient présents lors du tour de qualification organisé en Afrique du Sud. Il s'agit des Américains Williams Perry, qui joue la base, et l'attaquant Jermel Michel Kennedy. Hernández attend deux autres étrangers qui viendront renforcer l'équipe.
On voulait plus de temps pour s'entraîner et préparer les joueurs, mais ce n'était pas possible. Quoi qu'il en soit, nous sommes très très excités et désireux de faire de notre mieux.
Cependant, la base de l'équipe est composée de certains des meilleurs joueurs nationaux, mettant en évidence l'expérimenté Armando Baptista, le capitaine qui promet une bonne performance à Dakar.
C'est un Ferroviário qui, dans toutes les compétitions, cherche à donner le maximum pour atteindre les objectifs. C'est ce que le public doit attendre de nous, jouer dans des conditions égales et sur le terrain, on verra qui sont les meilleurs, s'ils le sont ou si c'est nous, mais le but est toujours de donner le meilleur de soi.
Dans la vitrine du basket africain, les locomotives de Chivève présenteront le meilleur du basket mozambicain, comptant sur de nombreux jeunes joueurs qui veulent briller dans la compétition, comme l'a assuré l'attaquant Ayad Mugambe.
Il faut y aller plus fort, plus aguerri. Pour nous aider, nous avons eu des renforts pour repartir avec les résultats que nous attendons.
Ferroviário da Beira sera la deuxième équipe mozambicaine à participer au championnat professionnel continental, la Basketball Africa League, après Ferroviário da Maputo, qui a représenté le pays lors de la première édition de la compétition, atteignant la deuxième phase qui s'est tenue à Kigali au Rwanda. C'est un exemple que les locomotives de Chivève veulent suivre et même surpasser.
Merci Thierry. Nous restons en basketball pour finir. Avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Golden State Warriors battu par Dallas 122 à 113, Miami et Brooklyn Nets 113 à 107, Détroit et Toronto 108 à 106, Boston massacre Memphis 120 à 107, Atlanta bat Chicago 130 à 124.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara a de nouveau été suspendu. Les avocats de la défense estiment que certains accusés ne devraient plus être poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État et demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer. Pour eux, le coup d'État est devenu un mode légal d'accession au pouvoir depuis le 24 janvier, en faisant allusion ici au dernier coup d'État suivi de la prestation de serment du président de la transition. Ce qui est rare dans les démêlés juridiques, la partie civile trouve légitime la requête de la défense, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Le procès a déjà été suspendu le 8 février pour permettre à la défense de préparer sa plaidoirie. Il a repris hier, mais aussitôt ouvert, aussitôt suspendu. La défense a soulevé une exception. Avec la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel, suivi de l'investiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, en tant que président du FASO et président de la transition, l'attentat à la sûreté de l'État ne constitue plus une infraction selon les avocats de la défense. Maître Olivier Sommet, l'un des avocats de la défense.
L'histoire du pays nous montre qu'il y a une forme de légalisation, de légalité, justement, de ces actes d'attentat la sûreté de l'État. Donc si aujourd'hui il y a un cas d'espèce qui est posé et qui est patent, écoutez, donc il faut que le Conseil constitutionnel se prononce. Si l'attentat à la sûreté de l'État est devenu légal, je ne vois pas pourquoi ils seront poursuivis.
La partie civile estime que l'actualité politique rattrape ce procès. Maître Prosper Farama est l'un de ses avocats.
On peut retenir simplement que l'actualité nationale politique nous rattrape dans le cadre de ce procès. C'est la question posée. Je pense sur le plan national depuis un certain temps, la décision prise par le Conseil constitutionnel relativement à la prestation du serment du président du MPSR et de son investiture, c'est de savoir est-ce que, en droit, cela veut dire que désormais au Burkina Faso, le coup d'État constitue un mode constitutionnel d'accession au pouvoir. Alors, en résumé, c'est la question que pose la défense et le Conseil constitutionnel aura à répondre dans un délai maximum de un mois.
Ainsi, un phénomène assez rare s'est produit en justice. La partie civile trouve légitime la requête de la défense. Maître Prosper Farama.
Pour ce procès, tous ceux qui sont poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État, dans le cas de l'assassinat du président Thomas Sankara, ne pourraient pas être condamnés. Hein, parce qu'ils auraient agi, on va dire, de façon légale. Parce qu'ils auraient, ils auraient organisé un putsch pour accéder au pouvoir, qui serait selon le Conseil constitutionnel un mode constitutionnel d'accès au pouvoir, ça enlèverait le caractère infractionnel aux actes qui ont été posés le 15 octobre 1987.
En attendant, le procès des présumés assassins de Thomas Sankara est suspendu. Les regards sont maintenant tournés vers le Conseil constitutionnel qui a un mois pour donner suite à la requête de la défense. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, ouverture hier à Ovando, dans le nord, d'une concertation politique au sujet des élections législatives et locales qui auront lieu cette année dans le pays. Le Premier ministre Anatole Kolline Makoso a appelé les participants à dialoguer pour améliorer le processus électoral. Mais les acteurs politiques et ceux de la société civile ne parlent pas le même langage. Reportage à Brazzaville de notre correspondant Arsène Sévra.
Si le chef de file de l'opposition, Pascal Tsatsimabiala, est bien présent à Owando pour participer à cette concertation, plusieurs opposants sont restés à Brazzaville. Pour ces derniers, Owando est une manœuvre de plus du gouvernement pour favoriser la fraude électorale. Clément Mirassa est le président de la Fédération de l'opposition congolaise.
À l'image des concertations antérieures, celle d'Owando est tout simplement une stratégie pour faire avaliser en contrepartie d'espèces sonnante et trébuchante des décisions prises unilatéralement par le pouvoir.
Mathias Nzon, un autre opposant, dit pourquoi il ne s'est pas rendu à Ouando.
Mais des gens comme nous, des gens, on va les faire quoi à Ouando? Et puis les élections. Mais on connaît maintenant, mais maintenant, là, je peux vous dire, un tel sera député dans telle circonscription. C'est déjà fait. Ils vont désigner leurs députés. Mais si vous avez un peu d'argent, vous allez perdre la campagne, alors que le député est déjà connu.
À la société civile, on reste sceptique. Trésor Ndilakende, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement CAD.
Ça fait 13 ans pratiquement qu'on parle de concertation dans notre pays. Je suis un peu sceptique parce que ce que l'État est incapable de faire en 10 ans, on ne va pas régler ça en 4 mois.
Mais pour ceux qui participent à ces assises, il est important de dialoguer dans le pays. Parfait Iloki, elle porte-parole du PCT, le parti présidentiel.
Il ne faut jamais blâmer l'initiative. À l'initiative du président, nous allons nous asseoir pour en reparler. Ce n'est jamais de trop. C'est pour ça qu'il ne faut pas être fataliste. Non, il faut avancer, il faut apporter les idées.
Même son déclose pour Jean-Valère Mbani, responsable d'un parti politique du centre.
Ouando est une véritable opportunité pour les acteurs politiques de pouvoir faire évoluer l'appareil démocratique de notre pays. Notre démocratie est jeune et elle a besoin d'être nourrie par nos différentes idées, qu'elles viennent de l'opposition, de la majorité, de la société civile ou du centre.
Au total, quelques 200 acteurs politiques et membres de la société civile prennent part à la concertation politique d'Ouando. Mais bien d'autres auraient bien voulu participer à ces assises. C'est le cas de Dave Ufren Mafoula, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle.
Deux semaines et demie que j'ai écrit à M. Mbaka. Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Il y a des partis politiques qui sont conviés. Est-ce que ces partis politiques ont des militants? Ceux-là sont invités avec d'autres. Mais il y a des personnes qui rythment la vie démocratique de notre pays qui semblent être négligées. Ils ont peur de quoi?
Après Madingou l'année dernière, Ouando est la 7e concertation politique que les autorités organisent à l'orée de chaque élection. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Cameroun, les enseignants sont en grève, se plaignant de salaires impayés, dont certains depuis des années. Les négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti, ce qui met en danger l'éducation de centaines de milliers d'enfants. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Michel Joseph.
Les élèves du lycée public bilingue d'Eido Adoula, pour plaider leur cause, chantent que le gouvernement doit payer les enseignants pour que les enfants aient accès à l'éducation. Dans leur chanson, ils disent que leurs rêves de devenir ministre, médecin, journaliste ou entrepreneur seront brisés si le gouvernement ne satisfait pas la cause des enseignants. L'architecte David Muller a 3 enfants. Il dit qu'il s'est rendu à l'école mercredi pour savoir pourquoi les enseignants viennent à l'école mais refusent de dispenser les cours.
À cause du Covid, les enfants n'ont pas été réguliers à l'école. S'ils continuent de perdre leur éducation parce que les enseignants sont en grève, l'avenir des enfants sera compromis. Donc, mon plaidoyer est que le gouvernement devrait se pencher sur leurs problèmes.
Mala a déclaré que la fréquentation scolaire au Cameroun n'était pas régulière depuis que Yaoundé a signalé ses premiers cas de Covid-19 en mars 2020. Aussi, pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun a accueilli le mois dernier, le gouvernement a interrompu les cours pour que les élèves puissent remplir des stades vides. Selon M. Mala, les enfants n'ont pas de temps à perdre s'ils doivent préparer les examens de fin d'année prévus au mois de mai. 10 associations et syndicats d'enseignants ont annoncé la semaine dernière une grève contre ce qu'ils appellent le manque de respect du gouvernement camerounais. Ils exigent que les salaires des enseignants du primaire soient augmentés de $150 par mois à au moins $400. Ils demandent aussi que les salaires des enseignants du secondaire passent de 400 à au moins $800 par mois. Pour Valentine Tamé, président de l'Association des enseignants du Cameroun, le gouvernement a recruté plus d'enseignants qu'il ne peut payer et doit maintenant plusieurs années de salaire impayé.
Vous avez des enseignants qui sont restés 9 ans, 10 ans sans salaire et le gouvernement n'a cessé de promettre. Ce qui est plus ennuyeux, ceux qui ont de l'argent, qui donnent des pots de vin, ce sont ceux qui reçoivent des arriérés et leur salaire.
Les partis ont négocié mardi et le gouvernement a promis d'examiner les doléances des enseignants et de solder les salaires impayés d'au moins 17 000 enseignants, sans toutefois préciser quand. Fouda Séraphine Magloire, secrétaire générale du bureau du Premier ministre, affirme que les enseignants ont même accepté de suspendre leur grève. Mais le professeur de géographie Apollinaire Zé, un porte-parole des enseignants, a catégoriquement démenti une telle affirmation.
Nous devons respecter le mot d'ordre en allant à l'établissement suivant nos emplois de temps. Demandons aux enfants de rester calmes et sereins. Si une autorité vous convoque, soyez sereins. Ayez le courage de lui poser une seule question. Monsieur, pouvez-vous travailler 1 an, 2 ans, 3, voire 4 ans sans salaire? Dites-lui que nous avons trop supporté, que nous réclamons seulement notre argent et des meilleures conditions pour bien travailler.
De son côté, le gouvernement nie que ses responsables et la police tentent d'intimider les enseignants. En attendant un dénouement, les élèves ne savent vraiment plus où donner de la tête.
Merci Michel. La résolution de l'Assemblée générale de l'ONU adoptée cette semaine à New York exige de la Russie qu'elle cesse immédiatement son recours à la force contre l'Ukraine. Cette résolution a été approuvée lors d'une session très rare par 141 pays sur 193. 5 ont voté contre et 35 se sont abstenus, dont 17 pays africains. Comment expliquer la prudence de ces pays africains sur la crise ukrainienne? Abdelrahman Dia a joint à New York Jean-Victor Nkolo, qui a été porte-parole de 3 anciens présidents de l'Assemblée générale de l'ONU.
Parce que dans un conflit d'une si grande intensité, avec des enjeux si importants, les Africains sont de nature très souvent prudents. Donc il y a eu environ 17 États africains, États membres, qui se sont abstenus, mais il y a eu un nombre presque équivalent, sinon un peu plus nombreux que celui-là, qui a vu les pays africains voter pour la résolution, une résolution assez inédite, parce que une telle condamnation ne s'était pas vue à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis fort longtemps. Il y a aussi eu, faut-il le dire, quelques pays africains qui n'étaient pas là, qui n'ont pas voté, donc qui n'ont pas été dans le registre des pour ou le registre des contre ou le registre des abstentions. Et ces pays, c'est le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Togo, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, et l'Éthiopie. Et ces quelques pays-là n'ont pas voté.
Oui. Alors pourquoi est-ce important pour l'Assemblée générale de faire voter une résolution qui n'est pas contraignante et c'est une manière de forcer les pays à prendre position publiquement? Quel est l'intérêt d'avoir un contraignant?
Contrairement au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la responsabilité première de la paix et de la sécurité internationale, avec 5 des États membres du Conseil qui ont donc un droit de veto, l'Assemblée générale est par contre un organe principal des Nations Unies dans lequel tous les États, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, tous les États membres ont une égalité de voix. C'est donc dans cet organe que les États peuvent s'exprimer tout à fait librement. Et je pense que la question de l'Ukraine et cette résolution qui a été soumise aux États membres ont montré une très grande diversité, n'est-ce pas, un large spectre de la capacité des Africains à s'exprimer. Donc les Africains ne se sont pas exprimés dans un seul sens ou dans une seule direction. Et il y a eu beaucoup d'États qui se sont exprimés pour la résolution, beaucoup d'États qui se sont abstenus, un seul État qui s'est exprimé contre et quelques États non négligeables qui n'ont pas voté, qui n'étaient pas présents.
Cela ne relance-t-il pas un peu la question de la réforme de l'ONU et de son Conseil?
Très bonne question. La question ukrainienne remet sur la table et de manière très éclatante la nécessité d'une réforme fondamentale et une réforme consensuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est donc clair que les Africains devraient peut-être profiter de cette occasion pour jouer un rôle encore plus important, un rôle prépondérant dans les questions internationales.
C'était Jean-Victor, ancien porte-parole. Jean-Victor Nkolo, qui est un ancien porte-parole de trois anciens présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Nathalie Barge. À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.